Africa.
Bonjour à toutes et à tous, bonjour le Maroc, bonjour l'Afrique, ravi de vous retrouver dans un nouveau numéro de Mars Africa où nous parlerons essentiellement des compétitions continentales. On connaît les noms des deux finalistes de la Champions League. Il s'agira de deux vieilles connaissances, l'Ahly et l'Espérance de Tunis. Nous parlerons de la mascarade de l'USMA face à la Renaissance sportive de Berkane et nous évoquerons également l'actualité dans de nombreux pays. Mais en attendant, nous ferons une petite escale avec l'information Mehdi Ben Hellal. صباح الخير ميدي.
صباح الخير أمين. تحية مستمعي راديو مارس.
موجز الأخبار.
والبداية من العاصمة الرباط، حيث توقع المغرب وجيبوتي أمس مذكرتي تفاهم ترومان تعزيز التعاون بين البلدين في مجالي الصحة والحماية الاجتماعية. وتهدف مذكرة التفاهم الأولى إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الحماية الاجتماعية، فيما تضع المذكرة الثانية إطارا للتعاون والشراكة بين المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بجيبوتي بغرض تقوية قدرات مهنية الصحة بالبلدين في ثلاثة مجالات أساسية هي المعرفة الطبية والصيدلية وكذا التمريضية والإدارية والمالية. بالرباط، وخلال افتتاح اللقاء الاقتصادي المغرب فرنسا، أكد أمس وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي برونو لومير أن بلاده اتخذت الخيار الاستراتيجي لتعزيز روابطها الاقتصادية مع المغرب في سياق تطورات عالمية لمرحلة ما بعد كوفيد، لا سيما على الصعيد الجيوسياسي وإعادة تنظيم سلاسل القيمة. أجرت رئيسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب سلمى بن عزيز مباحثات مع رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية فرنسا المغرب كريم بن شيخ، والذي يقوم بزيارة المملكة رفقة عدد من أعضاء المجموعة. وحسب بلاغ لمجلس النواب، فالمباحثات أجرها الجانبان تمحورت حول سبل تعزيز التعاون بين المجلس والجمعية الوطنية الفرنسية، حيث دعيا إلى عقد المنتدى البرلماني المغربي الفرنسي خلال الأشهر المقبلة. موجز عودة إلى أمين بيروك وحلقة اليوم من برنامج مارس أفريكا. صباحكم سعيد.
Ravi de vous retrouver. Première escale, ce sera au Caire avec notre ami Mohamed Saïd pour parler de la qualification brillante, la cinquième d'affilée en finale de la Champions League de l'Ali au détriment du TP Mazembe. Une victoire 3-0, une victoire qui se passe de tout commentaire. Sabah al-Khair, Mohamed Saïd.
صباح الخير
سي امين. الفريق الاهلي بتاهله لخامس مره على التوالي لنهائي تشامبيونز ليغ الافريقيه. هذا يعني ان هناك فريق يتسيد كره القدم الافريقيه على صعيد الانديه، اما بطل واما وصيف البطل. اذا عدنا للمباراه ديال تي بي مازيمبي، كيف يمكن تلخيصها علما بان النتيجه 3-0 تقدر تكون خادعه نوعا ما؟
طبعا، يعني نتيجة 3-0 اللي اتفرج على المباراة غير اللي يعرف نتيجتها بعد نهايتها. ممكن اتوقع ان المباراة كانت سهلة، المباراة كان واتساي الجيم، لكن لا، المباراة كانت صعبة جدا على النادي الاهلي. فريق مازيمبي عمل مباراة كبيرة. بداية طبعا بالتأكيد انا في البداية عايز اشكرك يا امين على تواصلك معايا وعلى مباركتك وتهنئتك للنادي الاهلي. ده شيء يعني يساعدنا بالتأكيد ومش غريب على الاشقاء والزملاء الاعلاميين في المغرب. لكن في جميع الاحوال انتصار مهم جدا، تأهل تاريخي للنادي الأهلي. تتكلم في خمس نهائيات متتالية من 2020 حتى 2024. الأهلي كمان بيحقق رقم قياسي تاني، ده التأهل السابع في آخر 8 سنوات، يعني منذ نسخة 2017 حتى نسخة 2024 كان في 8 نهائيات. الأهلي وصل إلى 7 نهائيات من 8 نهائيات، وده رقم قياسي أعتقد ما تحققش حتى على مستوى العالم في كل البطولات القارية. المباراة نتيجتها ده ما قلت لك في البداية، البعض يتوقع أنها كانت مباراة سهلة، ولكن بالعكس على أرض الملعب مازيمبي كان منافس قوي جدا، كان ممكن ياخد ضربة البداية بالهدف اللي أحرزه لولا تدخل الفار في التوقيت المناسب وألغى الهدف. وأعتقد هذا الهدف كان بمثابة يعني نقطة انطلاقة للأهلي. اللعيبة حست بالخطر، شعرت أن في مسؤولية، ضروري يكون في تركيز أكتر، وعلى هذا الأساس قدر الأهلي يعمل ريمونتادا قوية ويحرز الهدف الأول فالثاني، حتى جاء الهدف الثالث في اللحظات الأخيرة لينهي المباراة ويقتلها بشكل نهائي، ويستطيع الأهلي التأهل النهائي على حساب فريق مازيمبي اللي أصبح دلوقتي فريق قوي وراجع للمنافسة بشكل قوي جدا. يا أمين، فريق مازيمبي على فكرة حاليا دلوقتي معدل الأعمار السنية من 23 إلى 25 سنة. فريق حديث العهد مع مدرب سنغالي ليه ذكريات ونتائج جيدة ومدرب محنك بأمانة، مدرب قوي جدا. فأعتقد مازيمبا هيكون منافس قوي في الفترة اللي جاية، ولكن الأهلي في النهاية بخبراته بحضور جماهيره الكبير جدا قدر يكتب كلمته الأخيرة عشان يتأهل إلى النهائي لمواجهة الترجي إن شاء الله في 18 و25 من الشهر المقبل.
وإحنا كمغاربة يعني سعداء بتواجد لاعب مغربي في فريق الأهلي اللي يمكن يحرز أول تتويج ديالو إفريقي اللي هو رضا سليم، كان لاعب أساسي في لقاء الذهاب ويعني لم يغادر دكة الاحتياط خلال مباراة العودة بالقاهرة. يعني إذا كنا نتكلم على فريق الأهلي نتكلم كذلك على مواجهة مرتقبة مع فريق الترجي، هو مباراة كلاسيكية في مباريات نهائية للتشامبيونز ليج. فريق الترجي الذي عاد بقوة وخلق مفاجأة بتغلبه ببريتوريا على فريق ماميلودي سانداونز، هل كان الجمهور المصري ينتظر مقارعة الأهلي بدل ماميلودي سانداونز في مباراة نهائية؟
بص، يمكن جمهور النادي الأهلي ما كانش بيتكلم قوي في فكرة من الطرف اللي ممكن يواجهه في المباراة النهائية، يعني ما كانش فيه مثلا استفتاء أو الجماهير بتتكلم على الطرف الأفضل اللي ممكن يواجه الأهلي، كل كان مركز في ماتش مازيمبي. حتى بعد المباراة ما انتهت ما شفناش ردود أفعال من الجماهير، لا يا خساره كان نفسنا نقابل صن داونز مثلا، لا كويس اللي احنا هنلعب الترجي، ما ظهرتش لغايه دلوقتي في ردود افعال الجماهير. لكن في النهايه في فئه معينه من جماهير النادي الاهلي كانت تتمنى مواجهه صن داونز، لان الاهلي يمكن كان سيء الحظ في مباراته مع صن داونز في الفتره الاخيره، خسر مباراتين بالخماسيه في بريتوريا، صن داونز اقصى الاهلي في نصف نهائي السوبر ليج، فكان جمهور الاهلي بفئه معينه كانت تتمنى مواجهه صن داونز في الفاينل عشان فرصة انك عشان تعوض كل اللي فات ده كان لازم تكسب بطولة من صن داونز، مش تلعب معاه مباراة عادية بثلاث نقاط، لا مباراة بطولة، مباراة دوري ابطال تكسبها تاخد منه البطولة. فكان الفئة دي شايفة ان مواجهة صن داونز افضل عشان فكرة الصقر الكروي. في فئة تانية برضو يعني بتتكلم على فكرة لا الاهلي كان خسر من الترجي في 2018، ففرصة طيبة ان الاهلي برضو يقصي الترجي ويفوز عليه ببطولة، لان الاهلي من ساعة 2018 ما واجهش الترجي في فاينل الا في الفاينل اللي جاي، لعب مع الترجي سيمي فاينل العام الماضي وكسب الترجي، يعني كسب الاهلي كسب الترجي ذهابا ايابا، ولكن كان سيمي فاينل ما كانش مباراة ببطولة. فهي وجهات نظر بتختلف، لكن في النهاية المباراة النهائية هي مباراة نهائية، سواء الترجي سواء صن داونز سواء الوداد، بتبقى مباراة قوة، مباراة كبيرة، مباراة عملاقة مع فرق كبيرة، مع فرق لها تاريخ. فأعتقد هتبقى مباراة صعبة جدا، الذهاب في رادس، العودة في القاهرة. الترجي على فكرة جاي من بعيد، ترجي الفترة الأخيرة كان مستوى بعيد جدا، خسر من الوداد في السوبر ليج في دور المجموعات، كانت نتائجه مش أفضل شيء، خرج تاني مجموعة حتى بعد بيترو دي لواندا، تأهله حتى أمام أسيك موزة كان بشق الأنفس. كانت المفاجأة بقى وبداية عودة الترجي أمام فريق صن داونز، وجع صعبة جدا، صعب جدا تتوقع مين اللي هيفوز باللقب، الحظوظ متساوية، مدرب برتغالي جديد مع الترجي اسمه كارتوزو، الترجي جاب تدعيمات من لعيبة برازيلية الفترة الأخيرة عملت نتائج جيدة، والترجي حتى على مستوى النتائج أمين عمل أرقام جيدة جدا في البطولات الإفريقية. يعني من الحاجات الإيجابية اللي أنا شفتها في الترجي الفترة الأخيرة في مسألة الكليب شيت، في مسألة الانتصارات المتتالية، يعني لك أن تتخيل مثلا أن فريق الترجي خلال هذا العام تتكلم لم يتلقى أي هدف في ملعب رادس، 11 مباراة من أصل 12 بشباك نظيفة، 7 مباريات متتالية شباك نظيفة، نفس الأرقام للأهلي، يعني أعتقد كلها أرقام كويسة جدا بالنسبة للترجي. عنده لعيبة مميزة، يان ساس مسجل 5 وصنع 6، رودريجو سجل 7 وصنع هدفين، 20 مساهمة تهديفية من الثنائي البرازيلي سواء يان ساس أو رودريجو. لا نسخة الفاينل هتبقى نسخة قوية جدا، وبإذن الله النادي الأهلي يكون موفق في التحضير لهذا اللقاء.
يعني سؤال أخير يتعلق بمباراة نهضة البركاني أمام فريق اتحاد العاصمة، يعني يوم أمس تم تأكيد نتيجة لقاء الذهاب، يعني فوز نهضة البركانية بالقلم من طرف لجنة الاستئناف الكاف. توقعك بالنسبة لمباراة الإياب، هل الفريق الجزائري في نظرك سيتفادى عقوبات مشددة وسيصعد إلى أرضية الملعب، أو من المرتقب أن نعيش نفس سيناريو مباراة الذهاب بالجزائر العاصمة؟
والله بص أنا يعني فريق اتحاد العاصمة صعبان عليا بصراحة بسبب الظروف اللي بيواجهها، وطبعا مجبر على حاجات هو مش قادر ياخد فيها قرار لان الموضوع خرج بره اطار الرياضه خالص. كنت اتمنى اللقاء الذهابي يتلعب في اجواء عاديه جدا ولقاء العوده اللي انا كنت متوقع ان ده بيتكلم على نهائي يعني نهائي مبكر اتحاد العاصمه نهضه الدكان فرقتين كبار اتحاد العاصمه هو حامل اللقب. لكن انا مش هطول عليك في الجزئيه دي كتير. المعلومات بتقول ان اتحاد العاصمه هينزل الملعب واذا فريق بركان نزل الملعب بنفس القميص اللي تم احتجازه في الجمارك في الجزائر مش هيلعب المباراه. واعتقد لو الاتحاد العاصمه ما لعبش المباراه هتبقى فيه عقوبات قاسيه جدا يعني ممكن تصل الى حد الاستبعاد لمده سنتين او ثلاثه من المسابقات الافريقيه. اتمنى اتحاد العاصمه ينزل ويلعب ويشارك لان بنلعب رياضه الرياضه بتقرب الناس بتقرب الشعوب. يعني حتى نتيجه لقاء الذهاب دلوقتي 3-0 لصالح نهضه بركان بعد ما تم تأييد قرار المسابقات من خلال لجنه الاستئناف بالامس. فليه لا ما تبقاش مباراه فيها حماس انك تنزل يعني حتى يكون عندك دوافع انك تكسب القرار اللي صدر ضدك تحاول تجيب نتيجه ايجابيه تحاول تدافع عن شكل الكره الجزائريه. ده اتمناه ولكن المعلومات اللي بتخرج من المسؤولين في فريق اتحاد العاصمه او في الجزائر ان هم هيوصلوا الملعب عادي وينزلوا عادي.
ولكن قبل ذلك هناك اجتماع تقني يعني سوف يعني محمد سعيد يعني نتكلم بكل منطق يعني شكل الفن لا ديال الاتحاد ديال نهضه بركان تم المصادقة عليها مسبقا من طرف الاتحاد الإفريقي. حيكون هناك اجتماع تقني وفي الاجتماع التقني فريق نهضة بركان سيؤكد أنه غيلعب بنفس القميص بمعنى اتحاد العاصمة ليس له خيار إلا رفض إجراء المباراة في الاجتماع التقني أو صعود إلى الملعب وإجراء المباراة.
بص أنت تتكلم في
أمور قانونية.
أنا طبعا
أنا أتكلم بالمنطق.
لا وبالمنطق وبالقانون. القانون هو المنطق اكيد. انا شايف ان يعني نهر الدركان التيشيرت بتاعه او القميص بتاعه معتمد ببدايه الموسم وانا شايف حتى صور لنفس القميص ببطولات افريقيه سابقه لما فاز بالكونفدراليه. انا ما اعرفش المشكله فين بصراحه بالنسبه للفريق الجزائري. فنهر الدركان ما عندوش اي مشكله. نهر الدركان بيطبق اللوائح مظبوط. الاتحاد الافريقي بيطبق اللوائح مظبوط. على فكره مش معنى في الاجتماع الفني ان فريق اتحاد العاصمه يعترض انه كده ممكن ما يروحش الملعب. لا هو ممكن يعترض في الاجتماع الفني وممكن ينسحب من الاجتماع الفني ولكن في النهايه العبره بالمباراه نفسها مش بالاجتماع الفني. ففي الاجتماع الفني حصلت اعتراضات وتم تسجيل مواقف قانونيه وفي الاخر برضه الفريقين راحوا الملعب وكل واحد تمسك بموقفه. انا الشيء اللي بس لا اتمناه ان فريق اتحاد العاصمه يوصل الملعب وينسحب من المباراه. اتمنى تكون في مباراه رياضيه ما بين فرقتين يعني اشقاء يعني سواء اتحاد العاصمه او نهضه بركان. لكن في النهايه في قانون في لوائح لازم الجميع يلتزم باللوائح وبالقانون. واتمنى المشهد اللي شفناه في لقاء الذهاب ما يتكررش في لقاء العوده اكيد يعني امين وبالتوفيق يا رب للفريق الافضل. لكن طبعا نتيجه لقاء الذهاب اعتقد حسم الملف بنسبه كبيره يعني نهضة بركان في الفاينل يعني بنسبه تتخطى 99% الامر محسوم يعني.
شكرا جزيلا محمد سعيد وبالتوفيق للنادي الاهلي واللاعب نادي الاهلي المغربي رضا سليم في المباراه النهائيه مع فريق الترجي. ستكون مباراه مشوقه ان شاء الله في المباراه النهائيه. On reste sur le match entre l'Ali et le TP Mazembe. On va voir l'avis de l'autre partie à travers notre confrère et ami Michel Taubeau. On doit deviner, Michel, bonjour, la déception des joueurs du TP Mazembe qui ont cru un moment à 0-0 pouvoir tenir la finale puisqu'ils ont inscrit un but qui a été refusé par la VAR. On revient un peu sur le scénario de ce match, Michel, et certainement sur la déception d'une équipe très prometteuse du TP Mazembe.
Bonjour Amine, bonjour à tous les auditeurs de Radio Mars. Merci encore justement de m'accorder ce petit moment justement pour réagir par rapport à voilà à cette élimination du tout-puissant Mazembe en demi-finale de la Ligue africaine de champions. Voilà, on le savait déjà hein, depuis le match aller que de 0-0 allait certainement poser des problèmes à Mazembe parce que on savait que le national du Caire était voilà presque imprenable sur son terrain, donc raison pour laquelle je l'avais dit à Mid Russie le samedi dernier qu'il fallait absolument l'emporter voilà pour justement essayer de venir au Caire avec voilà des intentions justement d'ouvrir le jeu voilà. Mais bon, ça s'est pas fait. Mais bon, c'est quand même une équipe de Mazembe qui aura été valeureuse quand même hein, tout au long de cette compétition voilà avec deux matchs références quand même voilà le 1-0 de Lubumbashi face à Mamelodi Sundowns alors que voilà, les Mamelodi Sundowns ne perdaient plus depuis presque trois saisons, on va le dire comme ça. Et ce match hein, de quart de finale retour face voilà au Petro Atlético, où Mazembe est allé l'emporter à Luanda 2-1, hein, alors qu'il y avait également eu un 0-0 au match aller. Donc voilà, c'est une saison réussie. Hein, voilà, les corbeaux, comme on aime bien les appeler, n'auront pas à rougir de leur participation cette saison. Ils n'avaient plus atteint ce niveau de la compétition voilà, depuis 2019. Donc voilà, c'est quand même une très bonne chose. Voilà, il faudra construire en tout cas la saison prochaine hein, sur les mêmes bases. Et au niveau du championnat local ici, tout semble aller pour le mieux. Donc voilà, à moins d'un cataclysme, voilà, Mazembe voilà, va certainement conserver son titre dans ce championnat. Mais il faudra vraiment, mais alors vraiment, tenter voilà, de faire mieux, justement, pour cette prochaine saison en Ligue des Champions. Et voilà, Mazembe pourra peut-être redorer son blason hein, lors de la saison prochaine. Mais il faudra mettre encore un peu plus de rigueur, voilà, et de gagner des matchs quand il est faux, pour ne pas être justement surpris au match retour, comme c'était le cas lors de ce match face au National du Caire avec ses 5-3-0. On le rappelle quand même, hein, Mazembe avait également perdu un match pareil, hein, c'était cette saison également avec l'Espérance de Tunis à l'African Football League. Donc bravo à Mazembe, bravo également au National du Caire, voilà, qui va fièrement défendre son titre face à l'Espérance de Tunis. Merci Amine Birouk pour ce petit temps que vous m'avez accordé hein, justement pour réagir par rapport à cette demi-finale retour de la Ligue africaine de champions. Tout le plaisir était pour moi, on se retrouvera certainement voilà, le samedi prochain pour
d'autres actualités. C'est toujours un plaisir Michel, bien évidemment. Merci Michel. On va directement à Boïcon, Bénin, 10h18 pour retrouver Élisée Onkpatine. Bonjour.
Oui, bonsoir Amine Birouk. Bonjour Amine Birouk et bienvenue au Bénin.
On va commencer par de l'extra-sportif et cette affaire qui est en train d'être tranchée par les commissions de la CAF. Il s'agit du match entre l'USMA et la RSB. Il y a eu la manche aller qui n'a pas eu lieu, il y a eu un non-match. Et cette victoire 3-0 sur tapis vert de la RSB. Il y a là un match retour, l'équipe algérienne est sur place, mais on se pose des questions sur sa volonté de disputer la rencontre. On est aujourd'hui dans un contexte où, je dirais, l'absurdie l'emporte sur la raison et l'absurdie est du côté algérien.
Bien évidemment, puisque déjà lors de la rencontre aller, on a vu ce qui s'est passé, où la CAF, hein, bien évidemment, a tranché et avait demandé aux autorités algériennes et quand même de satisfaire les besoins hein, du club marocain. Mais contre toute entente, hein, on a vu que les Algériens sont restés sur leur position, ce qui est quand même déplorable, puisque la politique ne devrait pas prendre le pas hein, sur le sport, puisque quand on parle du sport, on a toujours l'habitude hein, de dire le fair play doit rayonner et il faut mettre le fair play au-dessus de tout. Mais dommage hein, ce qu'on a vu le dimanche dernier du côté d'Alger, du côté de ce grand stade quand même où tout le monde attendait hein, de suivre cette belle explication entre l'USM Alger tenant du titre et le président et champion, puisqu'ils se sont succédés. Donc vous imaginez, c'était la finale avant la lettre, c'était la plus belle affiche de cette compétition. Dommage que le match n'a pas eu lieu, puisque les Algériens sont restés sur leur position, ils n'ont pas pu satisfaire quand même les doléances de la CAF, puisque, disons-nous la vérité, la CAF, c'est l'instance qui gère le football en Afrique, et donc quand sa décision vient sur la table, il faudra l'accepter. Ce que les Algériens n'ont pas fait, eh bien le match aller n'a pas eu lieu, et c'est dommage puisque l'Afrique montre bien évidemment cette image-là au monde entier, et ça fait défaut bien évidemment à ces supporters-là qui ont payé leur ticket pour venir assister à cette implication, et aussi à ces sponsors-là qui mettent leur argent pour bien sûr faire valoir quand même, montrer une belle image de ce football africain. Et la CAF a bien fait de réagir. C'est une très bonne décision de faire perdre ce match au club algérois suite à Pivert 3-0. Donc aux Algériens de jouer le match aller pour rattraper ce retard de 3-0, puisqu'ils l'ont cherché et ils ont retrouvé, comme je l'ai dit à Amine Birouk, la politique ne doit pas primer sur le sport, on ne va jamais cesser de le dire, Le sport, c'est le fair play. Le sport, c'est quand même une discipline qui harmonise tout un peuple, qui harmonise tout un continent, qui harmonise toute une planète. Vous imaginez donc, le sport ne doit pas être un instrument politique. Les Algériens ont mal fait de quand même d'empêcher les Marocains, le club de Berkane, de porter son maillot au match aller.
Maillot homologué par la CAF par ailleurs. Alors on va parler de terrain avec la finale de la Champions League. On la connaît déjà. Avec El Ahly et l'espérance de vieille connaissance. On va commencer par la victoire de El Ahly qui a été plus difficile que ne le reflète le score face au TP Mazembe 3-0.
Très difficile, très difficile. Et c'est vrai que ceux qui n'ont pas suivi le match diront quand même que, eh bien, les Égyptiens l'ont emporté, le tenant du titre l'a emporté 3-0 facilement. Mais quand vous allez suivre la rencontre, les Congolais ont posé d'énormes problèmes et pourraient même être le premier à inscrire le premier but dont vous imaginez. C'est pour ça qu'on dit. Le football est éternel. C'est le charme du football, puisque le suspense reste entier. Vous pouvez être dominateur et par la suite, vous pouvez perdre le match. C'est ça qui fait que le charme de cette discipline-là, où ça amène plusieurs milliers de millions ou milliards de personnes à être devant leur petit écran. Le National Ali du Caire défendra bien évidemment son titre très prochainement, en mai prochain. Face à l'Espérance de Tunis, cela n'a pas été une surprise pour moi puisque je l'ai dit quelque part que le plus important quand vous jouez des matchs pareils, il faut tout faire pour prendre l'avantage au match aller. Ce que les Tunisiens l'ont fait en remportant sur la plus petite des matchs 1-0. Eh bien, les Sud-Africains, ont eu l'espoir pour dire bon voilà, à domicile on pouvait renverser le score. Mais quand vous avez un retard, même si c'est un petit retard de un but, il faudra batailler très fort avant de rattraper ce retard-là pour prendre l'avantage, ce qui n'a jamais été le cas, puisque entre-temps, les Tunisiens, compte tenu de leur position, ont piégé et les Sud-Africains qui on voyait comme prétendants puisqu'ils ont remporté la Super Coupe africaine des champions, la cette première compétition organisée où ils ont battu à l'aller du Caire en demi-finale avant de remporter le trophée. Cette fois, les Tunisiens sont passés devant et ils joueront bien sûr contre le tenant du titre, le National Ali du Caire. Attention en tête finale puisque l'espérance est de retour. Le football tunisien est en difficulté depuis près de 3-4 saisons, mais l'espérance vient de montrer que il faut pas vendre cher la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Eh bien, l'espérance de Tunis est de retour et on va assister à une très belle finale en aller-retour contre les géants du Caire.
Alors, autre question, là, ce sera la dernière en Coupe de la CAF. Berkane sur tapis vert après une sérieuse avance. De l'autre côté, il y a un match entre le Zamalek et Dream. Si on voit bien l'équipe égyptienne aller également en finale.
Bon, sur papier, ou si on prend le palmarès des chevaliers blancs du Caire, on pourra dire que bon, le Zamalek peut passer. Mais quand on va suivre un peu le match aller, c'est vrai que ils ont été dominateurs, mais à aucun moment on peut dire que bon, ils peuvent passer facilement au retour, puisque les Ghanéens se sont procurés deux occasions nettes de but où ils pouvaient remporter le match. Donc, tout peut se passer demain du côté de Cape Town ou bien du côté de Kumasi. Puis les Ghanéens n'ont pas l'expérience qu'il faut, mais ils peuvent avoir la contribution de leur 12e homme, de leur supporter pour aller chercher cette qualification. Cette Renaissance est en bonne position pour se qualifier puisque 3-0 à l'aller. Je vois mal les Algériens remporter 4-0 au Maroc pour se qualifier. Donc,
si ils montent sur le terrain. Terrain.
Donc, ça va être très difficile. Hein. Donc, le Zamalek doit faire très attention face à cette équipe.
0-0 à l'aller au Caire, effectivement.
Voilà, qui est allé chercher le nul blanc au Caire 0-0 et qui s'est bien comporté tactiquement avec un schéma de 5-3-2. Vous imaginez donc, vraisemblablement à domicile, eh bien, ça peut être un 4-2, 4-4-2 ou un 4-3-3. Ça peut aussi aider les Égyptiens à bien s'illustrer. Donc, en tout cas, le nul 0-0, ça veut dire encore que tout est possible puisque la règle du but marqué à l'extérieur n'existe pas en Afrique. Donc, tout est possible sur ce seul match qui pourra permettre à la Renaissance de Berkane de connaître son adversaire pour la finale.
Merci beaucoup Élisée Onkpatine. On se retrouve la semaine prochaine pour débriefer justement la Coupe de la CAF et nous envoler vers la finale qui pourrait être très intéressante entre le 12 et le 19 mai prochain. 10h26 après la pub, on retourne au Caire pour parler des demi-finales de la Champions League et de la Coupe de la CAF avec notre ami Tariq Radouane.
مباريات الدورة 27 بطولة احترافية قسم الوطني الأول مباشرة على راديو مارس. حسنية أكادير غادي تواجه المتصدر الجيش الملكي نهار السبت مع 7 ديال العشية ملعب كبير بأكادير.
هاد الماتش مباشرة على راديو مارس.
Direction le Caire à nouveau, nous روحوا للقاهرة من جديد عند صديقنا طارق رضوان. صباح الخير أستاذ طارق رضوان. صباح الخير. Alors peut-être des difficultés à être audible de la part de Tariq Radouane, notre confrère de Nile Sport en Égypte et qui connaît sur le bout des doigts toute l'actualité du football continental. Il est vrai qu'aujourd'hui, le football égyptien est à la fête avec la qualification d'El Ahli qui a battu le TP Mazembe 3-0. Et puis, on reviendra dans quelques minutes avec Ahmed Adela, si on ne peut pas l'avoir, de façon à pouvoir envisager aussi le débrief du match de l'Espérance de Tunis qui a éliminé le Mamelodi Sundowns. Sabah al-Khair, Tariq Radouane.
صباح النور اهلا بحضرتك واهلا بكل مستمعينا في المغرب وفي العالم العربي.
سنتكلم على المباراه النهائيه مره اخرى كره قدم شمال افريقيا متفوقه في الشامبيونز ليج بعد تاهل كل من الاهلي والترجي. تاهل الاهلي كان متوقع، تاهل الترجي كان اقل توقع نظرا لقوه فريق ماميلودي سان داونز اول حائز على لقب الافريكان فوتبول ليج.
صحيح، هو طبعا اللي متابع قوي لسان داونز هيلاقي ان عنده دايما مشكله في الادوار الاقصائيه. هو بيبدا بدايه ممتازه خاصه في دوري المجموعات وفي الادوار الاولى، وبعدين مستواه في الادوار الاقصائيه بيتراجع، وده حصل لسنوات كتير جدا يعني ما حدش لاقي تفسير ليها. زائد ان سان داونز في الدوري وفي كاس جنوب افريقيا نتائجه الاخيره ما كانتش مطمئنه، يعني طلع تعادل في ماتش 1-1، كسب مباراه بضربه جزاء 1-0 في كاس جنوب افريقيا، حتى كمان في الدور السابق في دوري الأبطال فاز على يانج أفريكان في ركلات الترجيح رغم أن مباراة العودة كانت في ملعبه، وكان في كمان هدف أثار الجدل يانج أفريكان كان ممكن أن هو يطيح مبكرا بسان داونز. الترجي طبعا كمان بشكله تغير جدا مع كاردوزو المدير الفني البرتغالي، إن الحقيقة كمان عنده يعني كنيات خاصة في مجال الدفاع أو في خط الظهر، وشوفنا خط ظهر الترجي في كل المباريات اللي لعبها تغير حالا عما كان عليه، لدرجه انه تقريبا ما فيش اهداف. يعني هنلاقي انه مباراه الاسك 0-0 و0-0، هنلاقي قبلها في دوري المجموعات الهلال كسب 1-0، قبلها مع بيترو اتلتيكو 0-0، وحتى مع سان داونز 1-0 في تونس و1-0 في جنوب افريقيا. فدي تحسب لكاردوزو ان عنده الحلول الدفاعيه، وبرضه بيهتم بالجانب الهجومي، لكن ليه دور وليه يعني بصمة مميزة على أداء الترجي.
يعني إذا تكلمنا كذلك على كأس الكاف، فريق الزمالك في خطر أمام فريق دريمز الغاني، في نفس الوقت
صحيح.
هناك مباراة فيها جدل كبير بين النهضة البركانية واتحاد العاصمة، خصوصا بعد تأكيد فوز نهضة بركان بالقلم من طرف لجنة استئناف الكاف. يعني دخلنا في أشياء الرياضة في منأى عنها، خصوصا من طرف أو عموما من طرف فريق اتحاد العاصمة والاتحاد الجزائري لكرة القدم.
الزمالك طبعا عنده مواجهة صعبة جدا مع دريمز الغاني، وكتير ما كانوش يعرفوا دريمز الغاني، يقول لك فريق ضعيف أو فريق قليل. ده فريق تصدر المجموعة بتاعته عن جدارة، رغم ان كان فيها الافريقي التونسي وكان فيها ريفرز يونايتد النيجيري. عنده هداف البطوله بطوله الكونفدراليه اللي هو جون انتوي 5 اهداف، عنده لاعب مميز اسمه عبد العزيز عيسى بيلعب على الاطراف، عنده لاعب اسمه بواتينج، يعني عنده لاعبين ممتازين وعمل مردود جيد في مباراه الذهاب في القاهره خاصه في الجانب الدفاعي. لكن المباراه تبقى صعبه برضه على دريمز، لانه هو مطالب انه يفتح خطوطه، مطالب انه هو يهاجم، والفريق تبان قدراته أكتر لما ما يركنش للدفاع، لما يفتح خطوط بتبقى طبعا إيه إمكانياته بتبان الدفاعية والهجومية. فيعني الزمالك برضه يبقى فريق كبير، صحيح مباراة الذهاب انتهت 0-0 بس الزمالك عنده حظوظ برضه، أنا شايف 50% في مباراة العودة، لأنه تعادل بأي نتيجة إيجابية يؤهل الزمالك. يعني المباراة لو طلعت 1-1 2-2 الزمالك يتأهل.
يعني قائد أو قانون الهدف خارج الميدان يعني لازال ساري المفعول بقارتنا. وبالنسبة لنا البركانية، توقعك هل فريق اتحاد العاصمة سيلعب المباراة أو سيكون نفس سيناريو أو ما زالت مباراة الذهاب؟
والله أنا شايف امبارح متابع آخر لقطات، كان استقبال هايل من مسؤولين نهضة البركان، وشفت رئيس نادي اتحاد العاصمة أشد الاستقبال، وشفت المسؤولين من الجماعة المغربية ومن نهضة البركان استقبلوا الفريق بشكل جيد، ورئيس النادي بيؤكد على لعب المباراة وقال احنا هنلعب المباراة واحنا موجودين وكده. لكن في بعض الاراء الاخرى قالت انه برضو البركان ممكن يحدث معاه ما حدث في المباراة الاولى، وممكن اتحاد العاصمة يعترض على ازاي، وبالتالي ممكن يعني هنشوف ايه اللي هيحصل. لانه النهاردة برضو انا مش مع حتة دخول السياسة في كرة القدم، يعني نهضة البركان واتحاد العاصمة فريقين كبار، وكنا عايزين نتفرج بصراحة على المباراة الأولى ونتفرج على المباراة الثانية، والأفضل يربح ونرفع له القبعة. فيعني كل الاحترام والتقدير للمدينتين وللبلدين، وإن شاء الله يعني الأمور يعني يتم تطرقها. لكن هو إحنا طبعا المباراة المؤكدة في الجانب الآخر اللي هي مباراة الدريمز والزمالك، دي طبعا هتتلعب بكرة وهتتلعب على ملعب بابا يارا في كوماسي، توقيت الساعة 4 توقيت جرينتش إن شاء الله، أعتقد اللي هو 5 توقيت المغرب.
سؤال آخر، يعني يعني عشنا طيلة أسبوعين كأس إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة، ومرة أخرى المغرب أكد تفوقه قاريا، لأن المنتخب المغربي فريق عالمي. المفاجأة هو احتلال مصر للمرتبة الرابعة وعدم تأهل مصر لكأس العالم. ما هي حسب نظرك أسباب تراجع كرة القدم داخل الصالات بمصر، وهذا الإخفاق اللي يمس سمعة بلد كان يسيطر في فترة من الفترات على كرة القدم داخل القاعة قارين؟
صحيح، سؤالك مهم جدا. وتفوق المغرب في كرة الصالات وفي المنتخب الأولمبي وفي المنتخب الأول وبعض الأندية طبعا، ده ما جاش من فراغ، أكيد فيه عمل وفي تخطيط جيد. وفي المقابل الكرة في مصر تحتاج يعني طبعا إلى إدارات أفضل وتحتاج إلى تخطيط أفضل. مصر فعلا كانت في كرة الصالات تأهلت لكأس العالم وشاركت فيه مرات عديدة، وكانت تتوج كثيرا ما تتوج بالبطولة، لكن البطولة دي طبعا يعني كانت نتيجتها والنتيجة اللي قالت إليها مخيبة للأمال، وأتمنى التوفيق. لكن مبروك للمغرب طبعا، وزي ما انا قلت انجاز يضاف للكره المغربيه، زائد كمان احنا نسينا استضافه المغرب فوزها بتنظيم كاس الامم وكاس العالم في 2030 ان شاء الله.
شكرا جزيلا استاذ طارق رضوان على هذه المداخله، والى اللقاء في فرصه مقبله ان شاء الله. اون بار جوهانسبورغ، on va parler ou plutôt à Pretoria en Afrique du Sud dans quelques instants pour retrouver notre ami Ahmed Adala qui va nous raconter comment s'est passé l'exploit de l'Espérance de Tunis. Bonjour Ahmed Adala.
Allô.
Bonjour. Bonjour. Alors est-ce que Ahmed Adala nous entend? Ahmed Adala, bonjour. On sent qu'il est là, on sent son la voix Diallo, mais l'impression c'est que peut-être qu'il ne nous entend pas suffisamment clair. Donc on va essayer de voir comment ça se passe. Ahmed Adala, bonjour.
Allô.
Oui, on t'entend. On t'entend, cher ami. Alors, on a l'impression qu'il y a des difficultés à avoir son Ahmed Adala. Je ne sais pas, est-ce qu'il nous entend? Quel est le problème? Quelle est la problématique qui est posée? Il se trouve à Pretoria avec la délégation de l'Espérance de Tunis. L'Espérance qui a réussi l'exploit de se qualifier pour la finale de la Champions League après avoir gagné en Afrique du Sud sur le score d'un but à zéro. Donc, visiblement, peut-être que on va essayer de résoudre ce petit souci technique. Ahmed Adala, est-ce qu'il nous entend? Ahmed Adala? Alors, difficulté à se faire entendre de la part de notre confrère tunisien. qui est souvent assidu, qui est toujours avec nous et qui nous donne toujours de précieuses informations concernant le football tunisien. Donc on va essayer quand même de le joindre dans quelques minutes. En attendant, peut-être on va mettre le cap sur Ahmed Adala, bonjour. Alors apparemment un petit souci, on va essayer de le résoudre. En attendant, on va partir du côté de d'Abidjan avec Elisabeth Goli. Elisabeth, bonjour. On va parler de cette refonte du staff technique des éléphants champions d'Afrique. Emers Faye a annoncé la nouvelle composition d'un staff technique élargi avec notamment un cadre marocain qui va occuper la fonction de préparateur physique. Bonjour Elisabeth.
Bonjour Amine, bonjour amis auditeurs de la Radio Mars. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver ce samedi. Effectivement, Emers Faye, confirmé sélectionneur des éléphants après la victoire de la Côte d'Ivoire à la 34e Coupe d'Afrique des Nations, vient de révéler la composition de son staff technique pour la nouvelle mission qui l'attend. Cette mission porte sur la qualification à la Coupe d'Afrique 2025 qui aura lieu bien sûr chez vous au Maroc et la prochaine Coupe du Monde. Alors pour réussir cette mission, Emers Faye a une équipe technique de 5 membres et nous avons 3 nouveaux entrants. En tête de liste, nous retrouvons Gérard Niawa, qui a été recruté au poste d'entraîneur des gardiens de but. Gérard Niawa, il faut le préciser, a joué, était aussi le second gardien en 2006 avec la belle génération dorée des éléphants de Côte d'Ivoire, qui comprenait Yaya Touré, Kolo Touré, l'emblématique Didier Drogba, Faye Emers lui-même, Guy Demel et autres. Donc, c'est vraiment des retrouvailles au sein de la sélection, même si là, les grades ont changé, ils ne sont plus joueurs, mais ils sont vraiment les responsables techniques. Donc, on a Gérard Niawa qui rejoint ses anciens coéquipiers. Et il faut rappeler aussi que Gérard Niawa, jusqu'à ce jour, était l'entraîneur des gardiens de but de Sochaux en Ligue 2 française. C'est un Ivoirien de 45 ans et il est également passé par le club français de Dijon. Une autre recrue qui fait partie aussi des surprises, nous avons le préparateur physique, qui est l'un des vôtres, un Marocain, Samir Amba, un ancien de l'OGC Nice et de la sélection marocaine des U17. Donc il est là pour s'occuper de la condition physique et qui sera vraiment, on pense bien, sera vraiment un atout pour maintenir les joueurs en forme et en pleine santé. Donc c'est aussi quelqu'un, un joueur qui a, c'est aussi un technicien, voilà, qui a évolué, qui connaît, que Faye Emers connaît bien. Et donc, ils sont, c'est entre amis, disons, donc les choses, on espère, se passeront vraiment comme tout le monde l'attend. Et vraiment, la troisième nouveauté dans le staff, dans ce staff, c'est Jérémy Antonio, un ancien aussi du Clermont FC en France, qui occupera le poste d'analyste vidéo. Donc, on le sait tous, son rôle consistera à étudier les performances des joueurs lors des matchs et des entraînements et puis fournir ainsi des informations cruciales pour améliorer le jeu. Donc, à côté de ces nouveaux entrants dans le staff technique en Côte d'Ivoire, il y a également Guy Demel, bien sûr, qui demeure toujours l'entraîneur adjoint de Faye Emers. Alain Gouamene, qui s'occupait des gardiens, rejoint Guy Demel comme adjoint de Faye Emers, mais en charge cette fois-ci du management des gardiens. Donc avec cette équipe, on se dit que Faye Emers espère vraiment mener l'équipe nationale de Côte d'Ivoire vers de nouveaux succès sur la scène internationale. Cette nouvelle composition du staff technique marque le début d'une nouvelle ère pour les éléphants de Côte d'Ivoire et les attentes sont grandes. Il y a la qualification pour la CAN 2025 au Maroc, ainsi que pour le Mondial 2026. Donc ce sont vraiment deux enjeux très importants pour lesquels le sélectionneur est très, très, très attendu.
Très attendu, merci beaucoup Elisabeth Goli. Retour en Afrique du Sud, cette fois-ci, j'espère que c'est la bonne prise, avec Ahmed Adala, bonjour.
Bonjour cher ami, bonjour à tous les chers auditeurs de Radio Mars, de Radio Mars, chers auditeurs et auditrices, voilà.
Voilà, félicitations déjà pour l'Espérance de Tunis. On est passé par toutes les émotions avec un match qui a été même interrompu à cause d'une tempête, ou plutôt justement, des aléas climatiques. Alors explique-nous comment l'Espérance a réussi l'exploit d'aller gagner à Pretoria.
C'est plus qu'une tempête, c'est un coup de foudre, si on permet de se le dire.
Oui, c'est un coup de foudre,
il y a même eu un problème d'éclairage. Et apparemment, ils sont habitués à ce genre d'incidents en Afrique du Sud. Et d'après ce qu'on m'a raconté, les chers collègues sud-africains m'ont expliqué que ce genre d'incidents est fréquent. D'ailleurs, récemment, il y a eu deux incidents dans le même stade à cause des intempéries, des tempêtes et des coups de foudre. Donc, comme le stipule la loi, le règlement de la CAF, le règlement de la compétition, il fallait attendre 45 minutes avant de prendre la décision finale. Au bout de 40 minutes, les arbitres, ils ont rechecké la situation, ils ont regardé l'état de pelouse, la pluie a arrêté s'est arrêté de tomber, et donc le match a repris. Le match s'est arrêté à la 20e minute, a été interrompu plutôt à la 20e minute, alors que Mamelodi Sundowns était en position plutôt de domination. Donc l'Espérance a très très bien profité de cet arrêt, de cette interruption du match, et par la suite ils ont pris les clés en main. D'ailleurs, je pense que c'était la situation physique, l'état physique du joueur qui a joué pour l'Espérance et contre Mamelodi Sundowns. D'ailleurs, l'entraîneur de Mamelodi Sundowns, Mokouina, l'avait souligné lors de la conférence de presse. Il dit que, selon ses dires, bon, c'est vérifiable, bien sûr. Je pense pas qu'il était de raconter n'importe quoi. C'est clair, il y avait des joueurs qui ont disputé 30 à 35 matchs cette saison. Et pour eux, il y avait toujours ce cauchemar de la demi-finale face au Wydad. Et là, ils perdent au match aller 1-0. Et par coup de, je dirais pas de chance, mais de magie, par une tactique très très bien mise en place par l'entraîneur, par une discipline surtout défensive des joueurs de l'Espérance, ils ont réussi à transformer l'une des rares occasions à la 60e minute, 58e minute, avec ce but qui est venu des pieds de Raad Bouchib, encore une fois Rodriguez, qui avait fait l'assist comme au match aller. Raad Bouchib, rappelons-le, c'est un arrière droit, et Cardozo, l'entraîneur de l'Espérance, l'avait fait rentrer en jeu au début de la deuxième mi-temps, en le mettant en tant que presque un excentré droit, voire un ailier droit. Donc c'est un coaching réussi. L'Espérance a fait le nécessaire. L'Espérance a battu un record d'invincibilité face à Mamelodi Sundowns, qui n'a pas été vaincu depuis 21 matchs, et surtout qui n'a pas perdu à domicile depuis longtemps.
Alors justement, on retrouve l'Ahly du côté de l'Espérance. C'est de bons souvenirs quand même. Et on retrouve aussi la suprématie du football d'Afrique du Nord qui avait été contestée un peu par les Mamelodi Sundowns. Le secret de cette transformation de l'Espérance, parce qu'avec l'arrivée de Miguel Cardozo, on sent que les choses sont parties dans un sens très positif. Ça n'a rien à voir avec l'équipe, par exemple, de l'Espérance qui a été éliminée par le Wydad en demi-finale de l'African Football League.
Exactement. Si tu prends n'importe quel journaliste ou un petit connaisseur du football, ou même quelqu'un qui regarde les matchs de l'Espérance, et tu lui demandes si tu l'avais posé la question il y a 5-6 mois, tu lui dis que voilà, l'Espérance ira en finale, il va te dire mais arrête, tu es en train de rigoler là, l'Espérance ne va pas dépasser la phase de poule, voire les quarts de finale au meilleur plan. Mais là, l'Espérance se retrouve en finale, c'est l'identité, c'est l'adrénaline, c'est l'identité du club, et en plus, la tendance de voir ces Portugais, ces entraîneurs portugais qui dominent, hein. Pour l'avouer, on a des entraîneurs portugais dans le continent, l'entraîneur de Petro Atlético par exemple, ou d'autres entraîneurs, les Portugais, les Espagnols, ils réussissent très très bien leur job, ils sont des excellents communicateurs, c'est une copie, ils sont tous, hein, pas seulement Cardozo, ils sont tous une copie de Mourinho. C'est toute une génération qui émerge, c'est la tendance. Les entraîneurs portugais, ils savent très 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 bien jouer sur le mental, et identifier les points faibles de chaque groupe.
Alors pour terminer, c'est du 50-50 face à l'Ahly, sachant que l'équipe égyptienne paraît que l'avantage de disputer le match retour à domicile. Comment on envisage de préparer cette finale et de reconquérir un titre que l'Espérance n'a plus remporté depuis 2019?
C'est du 50-50, oui. Surtout que l'Ahly va récupérer ses joueurs blessés. Mais avant cela, Amine, il faudra le souligner, parce que les Nord-Africains, on a cette habitude de faire les déplacements. C'est un déplacement historique pour les supporters de l'Espérance. Il y avait 500 supporters. On parle d'un déplacement de l'extrême nord-africain vers le point le plus loin en Afrique, l'Afrique du Sud. Il y avait 500 supporters. J'étais vraiment agréablement surpris. J'étais sur place, j'ai tout vu de mes propres yeux. C'était magnifique, c'était un déplacement historique. Mmh. Maintenant, on revient au match. Depuis 2019, l'Espérance n'a pas remporté ce titre, oui. Mais depuis 2019, l'Espérance est passée par plusieurs états. Je pense que l'Espérance s'améliore d'un match à l'autre. Le championnat, je peux le dire, est quasi remporté sur le plan local. Maintenant, il y a l'Ahli. L'Ahli, c'est pas l'Ahli 2019, c'est pas l'Ahli 2022 non plus. Mais c'est un derby nord-africain qui traduit la domination des clubs nord-africains et des équipes nord-africaines. On voit ce qui va se passer. Le retour au Caire, oui, mais il ne faut pas oublier que l'Espérance avait disputé le quart de finale à Abidjan et la demi-finale, surtout face à Mamelodi Sundowns ici à Pretoria.
Merci beaucoup, Ahmed Adallah. Le voyage va être long. Je ne sais pas, est-ce que c'est un vol spécial où il va falloir transiter par les pays du Golfe?
Non, en fait.
Ou par la Turquie?
Je prends un vol ordinaire. Par la Doha.
Mmh. Donc, voilà. Une petite escale au Qatar, un peu de free shop et un bon retour à la maison. Bon retour parmi les tiens.
Inch'Allah.
Et à très très bientôt, mon cher ami. Toujours un plaisir d'accueillir notre ami Ahmed Adallah. Et félicitations encore une fois pour l'équipe de l'Espérance de Tunis qui a l'occasion, l'opportunité d'être parmi les équipes finalistes de la Champions League africaine. On va à Ouagadougou retrouver notre ami Jean-Modeste Ouédraogo. Bonjour Jean-Modeste.
Bonjour à tous les auditeurs de Radio Mars.
Alors l'actualité, pour l'instant, elle est un peu morose du côté du Burkina Faso, mais c'est tout de même, bien évidemment, les déclarations d'Alain Traoré qui s'est sur le site d'Afrique.com qui a dit « On s'est toujours menti aujourd'hui, ça nous rattrape ». Est-ce qu'il fait un décryptage de l'actualité des étalons du Burkina Faso, ou bien c'est juste un état d'âme d'un joueur qui a perdu le niveau, qui a été touché par la limite d'âge et qui n'est plus dans les papiers des sélectionneurs respectifs du Burkina?
Oui, effectivement, nous avons tous découvert la déclaration de Alain Traoré, sur les réseaux sociaux.
Et au Djibouti, qui joue au championnat djiboutien, je rappelle.
Exactement, Arta Soula. Donc, je pense que c'est vraiment un joueur qui est en train d'expliquer un peu toutes ces frustrations qu'il a connues nationale, mais aussi il est en train de prendre la distance. Hein. Petit frère, Bertrand Traoré, qui a été écarté lors du dernier regroupement avec le nouveau sélectionneur. Je pense que c'est un peu, c'est pas un règlement de compte, mais c'est une façon pour lui, de s'exprimer, d'extérioriser un peu ce qu'il ressent, c'est son ressenti. C'est très ça encore. Et aussi, lorsque Alain Traoré parle, il faut voir derrière la famille Traoré, notamment avec Bertrand, le capitaine des étalons. Donc, que c'est un peu ce que l'équipe est aujourd'hui, c'est un peu l'environnement, l'atmosphère de l'équipe qui est un peu décrit dans ce que Alain Traoré est en train de dire. Et sincèrement, ça nous fait au dos lorsqu'on apprend certaines choses, lorsqu'on voit un peu ce que dit Alain Traoré. On se dit, cette équipe a besoin vraiment d'être réconciliée parce que effectivement. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes dans cette équipe.
Alors, on peut aussi parler de l'envers du décor, du côté positif. C'est du côté d'un international français, plutôt burkinabé, qui va signer prochainement au Racing Club de Lens, même s'il n'est pas aussi dans les papiers du récent sélectionneur. Il s'agit d'Hervé Kofi, et c'est un transfert record. Hein.
Ben oui, parce que qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que du moment où le Burkina Faso nomme un nouveau sélectionneur qui dit oui, Hervé Kofi, ce sont des joueurs que je ne vais pas prendre tout de suite, ils sont pas dans les petits papiers. Et puis tout de suite il y a le Racing Club de Lens qui vient comme ça signer le gardien international burkinabé de 27 ans, Hervé Kofi Kwaku. Ça fait plaisir parce que c'est un retour. de Hervé Kofi. Moi, je l'avais déjà dit, Hervé Kofi Kwaku fait partie des meilleurs gardiens du continent, derrière les Yacine Bounou, derrière les André Onana, voilà, et autres. Il est là, il a son petit nom, et la preuve, voilà, il va signer au Racing Club de Lens, et ça fait plaisir. Au Burkina, tout le monde dit, vous ne pouvez pas avoir un garçon d'une qualité et être en train de rechercher encore un gardien, c'est pas possible. Et donc, je pense que le regroupement qui va venir au mois de juin, l'entraîneur aura du pain sur la planche, parce que lui, il n'aura pas d'autre choix que d'appeler les joueurs qui sont en forme et laisser tomber les états d'âme et toutes les... qui sont derrière, toutes les discussions, oui, c'est des indisciplinés et autres. Je pense que ça ne va pas tenir la route. Parce que les joueurs que nous avons, nous n'avons pas mieux que ces joueurs-là. Hervé Kofi Kwaku, Bertrand Traoré, Youssouf Dayo, qui est du côté du RS Berkane, qui est vraiment la pièce maîtresse de cette équipe du RS Berkane. Je pense que véritablement, l'équipe de Burkina fait sans jeu, mais sans jeu, cette équipe aussi ne va rien, ne ressemblera à rien. Donc, je pense que aujourd'hui, il faut faire profil bas et puis essayer de vraiment, tout le monde, essayer de ramener un peu la sérénité dans la maison. Et je parle un peu à l'image du Maroc. Vous vous rappelez de cette affaire algérienne qui est Mazraoui, bien entendu, l'équipe va
y. Il faut trancher, faut qu'il y ait un président fort qui tranche et qui permette de ramener un peu du calme à la maison. Merci beaucoup, Jean-Modeste Ouedraogo. On va véritablement sprinter parce qu'on va aller du côté de Yaoundé retrouver notre ami David Eyengue. Bonjour, David. La problématique du sélectionneur adoubé et nommé par le ministère de tutelle, rejeté par la fédération, continue. C'est un gros blocage par rapport aux Lions indomptables du Cameroun en prévision des futures échéances éliminatoires de la Coupe du Monde. C'est au mois de juin prochain. Bonjour, David.
Bonjour Amine. Un vrai problème, c'est un bourglio au niveau de la sélection nationale Seigneur Monsieur du Cameroun. Un vrai problème puisque jusqu'à présent, le sélectionneur choisi par le ministère des Sports n'a pas encore été validé par la Fédération Camerounaise de Football, même si Marc Brice est en train de faire des tours dans les stades en Europe pour essayer, dit-il, de voir, de rencontrer les joueurs, les potentiels joueurs de l'équipe nationale du Cameroun. Il est allé en France, notamment à Nantes, pour regarder Nantes-Rennes. Il est allé en Angleterre pour regarder à Old Trafford, pour regarder Onana. Il est allé en Allemagne pour faire une prospection et on parle des Kitike. Effectivement, il envoie des photos. Il y a la toile est inondée de photos au Cameroun. On voit ces photos à répétition dans ces différents stades-là. Il rencontre les joueurs à des endroits différents. On a vu une vidéo avec André Onana qui l'embrassait chaleureusement. On croit que, vous savez, que Onana n'est pas en odeur de sainteté avec les dirigeants de la fédération. Donc, on peut penser que cette vidéo, il l'a fait pour chambrer les dirigeants de la fédération. On parle même déjà d'un éventuel capitana d'Onana au cas où Marc Brice serait confirmé comme entraîneur sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun. On se pose aussi quand même quelques questions sur les photos qu'il envoie parce que dans le match qui opposait à la 30e journée du championnat de Ligue 1 en France qui opposait Rennes à Nantes, on l'a vu avec les deux joueurs de Nantes, bien que Ganago ne soit pas aligné. On l'a vu aussi avec Castelletto, mais on l'a pas vu avec Christopher Wu, qui pourtant participait à ce match-là. Ça fait quand même poser des questions. On se demande, est-ce qu'il y a des joueurs qui refusent de le rencontrer ou bien des équipes là-bas qui refusent de lui donner la possibilité de rencontrer les joueurs camerounais? Donc on se pose toujours des questions et pendant ce temps, on parle aussi d'une conciliation au niveau du gouvernement camerounais entre le président de la Fédération camerounaise de football et le ministre des Sports, une conciliation qui serait menée depuis le premier ministère, mais on attend toujours et pendant ce temps, le calendrier, lui, ne s'arrête pas, la montre ne s'arrête pas, on s'en va vers les deux matchs éliminatoires de juin prochain et l'équipe n'est toujours pas constituée. L'équipe des dirigeants techniques, le staff technique n'est toujours pas constitué. Donc c'est un imbroglio total et on vit une situation qui est particulière. On se disait que après les obsèques du papa du président de la Fédération camerounaise de football, une décision tomberait, soit de confirmer le staff en place, soit de nommer un nouveau staff, mais ce n'est ni l'un ni l'autre et le Camerounais attend toujours.
Et ce statu quo ne nuit au football camerounais, en particulier aux Lions Indomptables. Merci beaucoup David pour cette réactivité. On aura accompli un joli tour de force aujourd'hui avec quand même 8 capitales africaines et 8 voyages que nous vous avons proposés. On félicitera les 4 clubs qualifiés pour la prochaine Coupe du Monde des clubs. Eli, Wydad de Casablanca, et depuis hier, Mamelodi Sundowns, c'est l'Espérance de Tunis. Et on souhaitera que le fair play puisse régner dans le match entre la RSP et l'USM Alger et que nos voisins puissent être ramenés à la raison et qu'ils puissent monter sur le terrain pour disputer crânement leur chance. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, samedi prochain exactement à la même heure, en vous souhaitant un excellent week-end et en tendant la main et le relais à Leila Mounji pour l'excellente émission Makachri El Koura, il n'y a pas que le football. Dans quelques minutes également, le Flash Info de 11h. À très bientôt.